L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Le 12 juin, c'est la journée nationale de sensibilisation au TDAH pour troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous en entendez peut-être parler autour de vous, troubles de l'attention, hyperactivité, des troubles souvent associés aux enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement être TDAH? Comment on le vit au quotidien? Quelles sont les prises en charge? Et qu'est-ce qui relève du fantasme dans ce qu'on croit connaître sur ce trouble? Pour éclaircir la question, nous sommes avec l'association Les Étincelles 72, Damien Loison-Planchon et Pierre Giclat. Bonjour.
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 Respectivement président pour Damien Loison-Planchon et Pierre Giclat, trésorier des Étincelles 72. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de votre association?
Eh bien tout à fait. La principale mission, c'est l'inclusion. Mais l'inclusion sur trois thèmes. L'inclusion des handicapés dans le monde des valides, notamment du travail. Le deuxième thème, c'est l'inclusion des handicapés au milieu des handicapés, parce que souvent, quand on a un handicap, on est dans une association de ce même handicap et on ne rencontre que des gens de ce même handicap. Nous sommes multi-handicap, pluri-handicap, voilà. Et la troisième mission, c'est de faire changer le regard des valides vis-à-vis des handicapés. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on voit quelqu'un en fauteuil, on sait que c'est un handicapé. Quand on le voit avec une canne, on sait que c'est handicapé. Mais quand on est devant quelqu'un qui est bipolaire, qui fait des crises d'épilepsie, pendant 99% de son temps, il paraît normal. Donc voilà, donc ça c'est une mission qui est importante de faire comprendre aux valides que bah, des fois, il y a 80% des handicapés qui sont invisibles.
Et dont notamment les TDAH. Donc déjà, une première chose à éclaircir, est-ce que le TDAH, c'est une maladie?
Non, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. Donc, c'est-à-dire que c'est un handicap neurodéveloppemental.
C'est dû à une disposition, un fonctionnement différent du cerveau, comme les troubles autistiques par exemple, ou c'est encore différent?
C'est exactement dans la même catégorie que les troubles autistiques, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui, à un moment donné, en fait, a mal... entre guillemets, a été mal configuré, on va dire.
Comme je le disais en introduction, c'est un trouble qu'on associe facilement aux enfants. Alors, est-ce que ça ne concerne que les enfants?
Non, pas du tout. Ça ne concerne pas que les enfants. Mais comme aujourd'hui, la médecine a progressé, les diagnostics se font principalement chez les enfants aujourd'hui. Mais il y a des adultes qui sont nés avec, qui n'ont pas été diagnostiqués, entre guillemets, à temps, et qui aujourd'hui se font diagnostiquer. Et on se rend compte que s'ils ont eu une scolarité difficile, ou bien même s'ils ont eu un parcours de vie difficile, c'est bien souvent à cause de cela.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être TDAH? Qu'est-ce que ça implique dans la vie?
Alors en fait, être TDAH, c'est-à-dire qu'on a un cerveau en arborescence. Donc qu'est-ce qu'un cerveau en arborescence? C'est un cerveau en fait qui va faire que un mot, une phrase, une idée va nous lancer sur plein de sujets et peut faire qu'on va s'intéresser à des sujets, qu'on va faire ce qu'on appelle des hyperfocus. C'est-à-dire qu'on peut rester 3 heures, 4 heures, 5 heures fixé sur un point, sur un objectif, un truc, une loi ou un dessin, enfin peu importe, une série aussi par exemple. Ça fait aussi qu'on a ce qu'on appelle de l'impulsivité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va faire par coup de l'émotion, parce que du coup, au niveau émotionnel, c'est pareil, on ne régule pas forcément les émotions comme une personne dit lambda, et donc derrière, on va faire des choses par impulsivité. Et puis, c'est quand on redescend, entre guillemets, un peu, que là, on se rend compte que, en fait, mon impulsivité a fait que, là, j'ai envoyé paître quelqu'un, ou que, là, en fait, j'ai pas fait les choses correctement, etc.
Et donc, avec TDAH, en fait, on regroupe deux choses, le trouble déficit d'attention et l'hyperactivité. Pourquoi c'est regroupé en un seul trouble?
Parce qu'en fait, avant, on faisait la différence entre l'hyperactivité et sans hyperactivité. Donc, on disait trouble de l'attention et puis derrière, on disait avec hyperactivité ou sans. Aujourd'hui, maintenant, on a tout regroupé dans le seul terme qui s'appelle TDAH. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on s'est rendu compte que quoi qu'il en soit, qu'on soit ou pas avec de l'hyperactivité, il y a toujours un petit coin quelque part, un petit quelque chose qui fait quand même qu'on a une hyperactivité. Ça va être une hyperacousie, ça peut être donc c'est les oreilles, ça peut être l'hyperfocus, c'est-à-dire rester bloqué sur un film, une série, un sujet quelconque. Ça peut être aussi l'hyperactivité dans le sens faire les choses très vite chez soi. Par exemple, on est très maniaque au niveau du ménage, admettons, on va vouloir faire les choses, on va les faire très vite, on va pas forcément calculer le temps qu'on a fait ou la fatigue et tout ça. Et derrière, quand on parle de troubles de l'attention, c'est pareil, c'est que qui dit attention dit que derrière, un rien peut faire qu'on va partir en l'air. Par exemple, pour les enfants, c'est hyper compliqué pour eux de rester plus de 50 minutes, par exemple, à écouter un professeur parce que derrière, c'est vite l'anarchie dans leur tête et ils sont plus dans la capacité justement de suivre un cours.
Toutes les difficultés en milieu scolaire, le fait que ça se repère plus facilement en milieu scolaire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en milieu scolaire, on arrive à les reconnaître maintenant par des modules qui existent, qui viennent des États-Unis, qui s'appellent des WISC. En fait, ce sont des tests, des sortes de quiz en fait, qu'on fait faire aux enfants et qui permettent justement derrière de tester leur TDAH et de savoir exactement à quel niveau ils sont. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être à des niveaux qui vont être plus ou moins grands, on va dire, plus ou moins importants, et d'autres où ça va être bon, pas très important, ça peut... Voilà, c'est, on va dire, c'est ce qu'on appelle du modéré. Mais un TDAH, par exemple, comme le mien, qui est quand même assez important, fait que sans médicament, je peux aller en vitesse x2 sur WhatsApp, par exemple. Voilà, c'est, ça sera ma manière de parler. Je peux, des fois, quand j'appelle quelqu'un, que je sais que j'ai peu de temps pour dire quelque chose parce que mon cerveau, il enregistre tellement de choses que derrière, il se dit « ça, faut que tu le dises tout de suite, sinon tu vas perdre ton idée et ça va pas aller ». Du coup, effectivement, des fois, j'appelle une personne, je lui dis « oui, il faut que je te parle de ça ». Puis en fait, la personne « tu peux me répéter ?»« Attends, j'étais en train de te dire quoi ?» Puis en fait, j'ai perdu parce que justement, je suis sur un autre sujet. Et en fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est pour faire l'idée, pour que les gens puissent avoir l'idée, c'est un peu comme si vous ouvrez un navigateur Internet et que vous avez 47 onglets ouverts en même temps.
Il y a une superposition des tâches, en fait.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une superposition des tâches et en plus de ça, il y a vraiment l'idée d'avoir tout un tas d'onglets d'ouverts, de dossiers, de machins, et de savoir en fait où est-ce qu'on veut aller. L'idée d'ouvrir justement 47 onglets, c'est parce qu'on sait que le premier, le deuxième, le troisième vont se rattacher au quatrième, etc. Mais derrière, c'est comment prioriser. Le plus important aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux enseignants et bien même dans le monde adulte, aux patrons, c'est que si vous avez une personne qui est diagnostiquée TDAH, il ne faut pas lui donner en fait des ordres ou lui dire « tu fais cette tâche-là et basta ». Non, non, il faut lui dire « voilà, tiens, je te donne 4 tâches aujourd'hui. Par contre, en priorité, je voudrais que tu fasses celle-là. » De manière à ce que la personne puisse vraiment se dire « ok, donc là, j'ai 4 tâches. Dans ma tête, je sais les situer, je sais comment les réaliser. Mais par contre, celle-là, elle est prioritaire. Donc, je vais me focus sur celle-là. » Et la personne peut rester bien 3-4 heures à se focaliser sur une tâche. Et tant que ce n'est pas carré béton comme il le veut, il ne va pas décrocher en fait.
Donc, parce qu'on l'a dit, le TDAH, ce n'est pas une maladie, donc on ne peut pas en guérir. Par contre, on peut le soigner donc avec de l'entraînement, on peut atténuer les symptômes.
Non, pas avec de l'entraînement, mais avec des médicaments. C'est-à-dire avec alors ça va être de la Ritaline notamment, ça peut être de la Sertraline. C'est des médicaments justement qui permettent de réduire en fait l'énergie entre guillemets, que le cerveau consomme. Et puis surtout, ça permet également de pouvoir poser à un moment donné le cerveau et faire « bon, allez, tu peux baisser les volumes, tu peux te calmer un petit peu » et ça évite justement qu'il aille trop vite et qu'il se perde dans ce qu'ils disent.
Et alors, donc, tous ces symptômes que vous nous avez décrits, donc on l'a vu, ça pose des problématiques au quotidien. Est-ce que ça pose aussi des difficultés sur les rapports sociaux notamment? Est-ce que c'est un handicap qui peut conduire à l'isolement de la personne?
Malheureusement, oui, parce que du coup, le fait d'être impulsif, fait que la personne qui est en face, si elle n'est pas sensibilisée au sujet, elle peut très bien prendre mal les choses et puis envoyer tout simplement faire qu'il y a rupture, on va dire, d'amitié, de relation. Et effectivement, derrière, oui, ça peut être très compliqué. En fait, le TDAH, aujourd'hui, il est souvent combiné à ce que disait tout à l'heure Pierre, à un trouble bipolaire ou un trouble border, qui fait que du coup, en fait, tous ces troubles-là sont des troubles qui sont liés à la psyché, mais qui sont liés aussi aux émotions. C'est-à-dire qu'en fonction en fait, de comment on se lève le matin, si on est joyeux, si on est en colère, si, etc., la journée ne sera peut-être pas forcément la même. C'est-à-dire qu'un TDAH, par exemple, qui va se lever le matin du mauvais pied, toute la journée, il peut très bien envoyer paître ses parents, les professeurs, etc. Et puis, à la fin de la journée, se retrouver tout seul. Parce que ses amis vont dire « vas-y, c'est bon, stop, quoi ». Et ça, effectivement, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que peu importe la personne qu'on a face à soi, si effectivement elle est diagnostiquée ou qu'elle est en cours de diagnostic, ou bien même que ça se voit. Hein. Simplement, il y a des personnes, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic, il suffit juste de discuter avec eux. Et on le voit quand la personne, elle est toute souriante et puis qu'elle passe du rire aux larmes en quelques secondes, ou bien même qu'elle est en train de te parler, puis qu'elle va passer en mode vitesse x2, puis qu'elle va revenir en vitesse x1. Des fois, tu es là, tu regardes, tu fais « ok, toi, viens, on va faire un test WISC 5, on va regarder ». Et c'est, nous, on a la chance aujourd'hui, c'est que on travaille avec des neuros, notamment au CHM et puis à Angers, avec qui on a eu l'autorisation justement de préparer les gens par rapport à ces tests-là et donc leur faire les premiers tests du whisk pour que derrière ils puissent voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont et nous on peut les aiguiller après par la suite en leur disant bah maintenant va voir un neuropsy ou va voir un pédopsy pour un enfant et à ce moment-là effectivement derrière on peut voir certaines choses et se rendre compte bah oui si la personne ou pas elle est plus dans l'imaginaire ou si c'est réel.
Et alors, est-ce que les personnes TDAH peuvent quand même être en totale autonomie ou est-ce qu'on a besoin d'accompagnement? Je pense par exemple, question bête, mais la conduite, est-ce que c'est possible pour des gens TDAH? Parce que c'est pareil, la conduite, il y a besoin de prioriser des tâches. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles pour les TDAH?
En soi, tout est possible à partir du moment où on a le bon traitement, les bonnes doses, si je puis dire, et surtout qu'on a un bon suivi psy derrière. En soi, tout est possible. La conduite, par exemple, c'est un petit peu comme, pour faire l'analogie, c'est un petit peu comme une personne qui a Parkinson. Lui, il va pouvoir conduire parce que justement, il va focus son cerveau sur la route. Et donc, de ce fait, il n'aura plus de tremblement, il n'aura plus rien. Une personne qui est TDAH, ça va être pareil. C'est-à-dire que s'il focus la route, le fait que c'est les feux verts, les feux rouges, les machins, les ceci, cela, en fait, son cerveau va focus là-dessus et il ne va pas penser à autre chose. C'est-à-dire que par exemple, si à un moment donné, il reçoit un appel, puis qu'il dit je la rappellerai plus tard, et puis que là, par contre, pour le coup, il peut oublier la tâche de rappeler la personne. Et le lendemain, se dire zut, j'ai oublié d'appeler ça, je devais le rappeler hier, c'était urgent. Mais en même temps, hier, je conduisais, donc j'avais pas la disponibilité, merci Pierre, la disponibilité pour le faire. Et du coup, c'est là où on voit que oui, tout est possible à condition d'avoir le suivi psy, surtout. Ça, c'est un suivi qui est très important. Et puis aussi un traitement de fond qui permet aussi de faire ralentir le cerveau et d'aller un peu mieux.
Mais pour ce suivi psy et ce traitement, il faut d'abord un diagnostic. Et alors, est-ce qu'il est facile à établir ce diagnostic ou bien est-ce que les TDAH connaissent plutôt facilement une forme d'errance médicale?
Il y a beaucoup d'errance médicale sur le sujet parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on commence à s'intéresser au sujet. Depuis quelques années, on a les informations. Mais malheureusement, les neuropsies sont de plus en plus... Ils viennent à manquer et en plus de ça, à côté de ça, ceux qui existent, ils ont des listes d'attente de 6 mois, 1 an, voire même plus. J'ai une amie, je crois, elle est sur une liste d'attente, ça fait 1 an qu'elle est sur une liste d'attente. Elle m'a dit, j'en ai encore pour 6 mois à peu près. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, vaut mieux se rapprocher des associations qui sont habilitées. Je pense notamment à Éclaircie Autisme, à Avenir TND, donc Trouble Neurodéveloppemental qui existe aussi.
Qui est toute récente celle-là pour vous?
Oui, tout à fait, Avenir TND est toute récente, mais elle travaille déjà avec nous par rapport à ce sujet-là, mais eux ils traitent aussi principalement les enfants, donc ils ont la possibilité, ils ont un carnet d'adresses, on va dire, avec des neuropsies, et du coup ils peuvent permettre aux gens d'avoir un contact dans un premier temps et puis après avancer. Et puis il y a nous également où nous on peut mettre aussi les gens devant et puis essayer de faire avancer les choses, mais des fois c'est pas forcément évident. On est vraiment sur un secteur comme il y a quelques années, on va dire, avec d'autres pathologies, mais on est sur un secteur où malheureusement il y a beaucoup d'errance médicale aujourd'hui.
Et alors Pierre Giclat, quels sont du coup les prochains événements à venir pour cette association Étincelle 72?
Le plus important, c'est le 7 novembre, nous organisons pour la troisième année consécutive la marche du handicap et des maladies rares. On fait un mini-village sur la place du jet d'eau et ensuite il y a une petite marche harassante de 1,750 km entre la place du jet d'eau, la préfecture et la place de la République. Voilà.
Merci beaucoup Damien Loison-Planchon, président des Étincelles 72, et Pierre Giclat, trésorier de l'association. Et on le rappelle, la journée nationale de sensibilisation au TDAH, ce sera ce jeudi 12 juin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.